Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Nous avons lu, j'espère que cette année se passera bien pour chacun, chacune de vous. C'est pas seulement un souhait, c'est une prière, puisque lorsque nous souhaitons les vœux en tant que chrétiens, ces vœux sont des souhaits, comme les prières sont des souhaits. Et je prie que Dieu vous bénisse et vous accorde de passer une bonne année. Bien sûr, chacun de nous, parmi nous ne sait de quoi cette année va être faite. Si on nous disait aujourd'hui quels seront les principaux événements de notre vie, peut-être que nous dirions, je pense que j'aimerais passer à 2019 tout de suite, par exemple, s'il y a des petites difficultés sur la route. Peut-être même certains demanderaient à passer en 2020 directement. Ou peut-être que nous dirions, eh bien, cette année va être formidable. Nous ne savons pas, même si ça dépend en partie de chacun de nous. Voyez-vous, ce texte que nous avons lu, qui a été lu il y a quelques instants, est un épisode de la vie de Salomon. Un épisode très particulier, car c'est rare dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire biblique, que Dieu se manifeste ainsi en posant une telle question. En fait, ce n'est pas une question vraiment, c'est une proposition, c'est une offre. Salomon est jeune, on pense généralement qu'il a à peine 20 ans quand il monte sur le trône à la mort de son père David. Et déjà, le seul fait de succéder à un roi comme David, ce n'est pas simple. Vous savez qu'il y a dans la Bible des successions qui ne sont pas simples. Je prends deux, trois exemples simplement. Par exemple, la succession de Moïse à la tête du peuple d'Israël. Moïse est considéré comme un géant, toute proportion gardée, bien sûr, pas physiquement, mais spirituellement, qui a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans à travers le désert. Il a sorti le pays d'Égypte par la puissance de Dieu, puis il a conduit ce peuple avec patience, avec persévérance, et avec foi en Dieu. Il y a aussi, et quand Josué a été appelé à lui succéder, Josué, permettez-moi l'expression, n'en menait pas large, parce que succéder à une personne aussi importante que Moïse, c'est difficile. Mais que penser par exemple des disciples de Jésus, des 12 apôtres, enfin 11 en enlevant Judas, qui ont dû succéder à Jésus, parce que quelque part, même si ce n'est pas tout à fait une succession directe, Jésus leur a confié la mission de perpétuer l'œuvre de Dieu après lui. On peut imaginer que dans la chambre haute, quand il priait pour recevoir le Saint-Esprit, il devait prier avec ardeur, sachant que Jésus leur avait dit « Vous ferez exactement les mêmes miracles que moi, vous en ferez même de plus grands ». Et je pense que dans la chambre haute, il devait se dire, avant bien sûr de recevoir le Saint-Esprit, espérons que ça va marcher. Espérons que le Saint-Esprit va venir et qu'il nous aidera, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons faire aucun miracle. Alors, il y a des successions comme cela qui sont difficiles. La succession du roi David n'était pas facile parce que David, contrairement à son prédécesseur, le roi Saül, avait été un roi qui plaisait à Dieu. C'est-à-dire un roi qui avait toujours une bonne attitude, un roi qui cherchait à plaire à Dieu, un roi qui voulait vraiment que Dieu soit honoré et glorifié dans le pays d'Israël. Alors quand Salomon monte sur le trône, on pense généralement qu'il a à peine une vingtaine d'années. Vous savez qu'il y a des rois qui sont montés plus jeunes encore que cela sur le trône. Et je vais reprendre l'expression, sans doute qu'il n'en menait pas large. Il espérait être à la hauteur. Et cette visite de Dieu est très opportune. Elle arrive au bon moment. Alors que Salomon se demande ce qu'il va faire, eh bien, Dieu vient lui rendre visite. Il y a un point ici qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, au tout début du texte, que Salomon venait de se marier avec la fille du Pharaon. Salomon s'était marié avec les filles du Pharaon, alors on pourrait se dire, mais est-ce que Dieu n'avait pas interdit au futur roi d'Israël de se marier avec des femmes étrangères ? Oui, Dieu avait demandé au futur roi, il avait dit, quand tu auras un roi sur toi, qui règnera sur toi, eh bien, qu'il n'épouse pas de nombreuses femmes, et en plus, qu'il n'épouse pas des femmes étrangères. Sauf, Dieu avait dit, sauf une femme égyptienne. Alors, c'est justement une femme égyptienne que Salomon épouse. Vous savez que par la suite, Salomon n'a pas suivi de manière stricte les prescriptions de Dieu, puisqu'il a multiplié les mariages. La Bible emploie des chiffres presque astronomiques pour parler de tous les mariages. Je crois que c'était 700 femmes, ou 300 femmes et 700 concubines, ou 700 femmes et 300 concubines. Bon, c'est considérable. Considérable. Alors, soit c'était vraiment le nombre, soit c'était des grands chiffres qui ont été employés, comme parfois en hébreu, pour exprimer le côté extrême des choses. En tout cas, Salomon est jeune, et pour l'instant, il veut marcher selon les lois, selon les voies de Dieu. Alors, il vient le voir dans un rêve, et vous savez que chaque fois que Dieu vient nous voir, c'est toujours important. Quand Dieu parle, c'est toujours important. Quand dans la Bible, Dieu parle, c'est toujours pour dire des choses importantes. Dieu, par exemple, je prends quelques exemples seulement, Dieu est venu voir Adam dans un moment moins glorieux qu'ici. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché qui consistait simplement à faire ce que Dieu avait interdit de faire. Alors Dieu vient les voir. Et c'est un moment important parce que Dieu va parler à Adam et Ève et va leur dire ce qui va les attendre maintenant parce qu'ils n'ont pas obéi. Plus tard, nous voyons que Dieu vient voir Abraham quand il habite à Ur en Chaldée et alors qu'il adore d'autres dieux. On oublie trop souvent que Abraham n'est pas né juif. Il n'était pas juif. Abraham était mésopotamien. Il pratiquait d'autres coutumes que celles du peuple juif plus tard. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Josué, chapitre 24. Abraham était ce qu'on a appelé pendant une époque un païen, c'est-à-dire un non-juif, et c'est de lui que sorti le peuple juif, entre autres, et pas seulement le peuple juif, puisque par son fils Ismaël est né la nation, le peuple arabe. Plus tard, Jacob, son petit-fils, qui lui aussi manifeste une certaine faiblesse, parce que quand Dieu parle à quelqu'un, cela ne veut pas dire que cette personne est une personne bien. Cela veut simplement dire que Dieu est bon et que Dieu peut s'adresser à n'importe quelle personne. Bien sûr, il s'adressera de prime abord plutôt à ceux qui croient en lui et qui le respectent, qui essayent de lui plaire. Mais il peut aussi s'adresser à d'autres personnes, comme il le veut. Il va s'adresser plus tard à Jacob, qui jusque-là avait quand même manifesté une certaine ruse, puisqu'il avait trompé son père en faisant croire qu'il était son frère, et qu'il avait usurpé la bénédiction qui était réservée à son frère, donc il avait volé son frère. Donc Jacob n'était pas un homme parfait, il s'est enfui et plus tard Dieu s'est révélé à lui pour le remettre sur le droit chemin. Dieu s'est manifesté plus tard à Joseph, le fils de Jacob, à qui il a donné des rêves de jeunesse, et peut-être que Joseph a commis l'erreur de raconter ses rêves aux autres. C'était des rêves de grandeur et de domination sur les autres, et vous savez que cela est à l'origine d'un certain nombre de ces problèmes. Et puis Dieu s'est manifesté à Moïse, alors qu'il était dans le désert depuis près de 40 ans, qu'il avait oublié sa vocation première et qu'il gardait des moutons. Dieu est venu le voir pour lui rappeler qu'il l'avait appelé à son service. Et Dieu est venu à ce moment-là parce qu'il estimait que Moïse maintenant seulement, était prêt. Quelque part, on peut dire que la venue de Dieu est toujours risquée pour l'homme, parce que l'homme ne sait jamais ce que Dieu va lui dire. C'est un petit peu comme la visite du prophète Samuel quand il est venu pour oindre d'huile le futur roi David. Lorsqu'il est arrivé dans la maison des parents de David, le père de David lui a demandé qu'est-ce qu'il venait faire. Il était inquiet parce que parfois le prophète venait pour apporter des avertissements solennels. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. Quand Dieu se manifeste, sa simple visite est comme un risque que court l'homme, parce que l'homme ne sait jamais ce qu'il va lui dire. Elle est un grand défi, parce que l'homme est responsable de répondre à Dieu par oui ou par non. Je prends l'exemple de Ananias, vous savez, ce disciple qui habitait à Damas à l'époque de l'apôtre Paul. Il nous est dit que Ananias était un disciple et qu'il priait Dieu un jour, quand Dieu s'est manifesté à lui pendant qu'il priait et l'appelait par son nom, Ananias, Ananias. Et Ananias a répondu, « Me voici, Seigneur. » « Me voici », ça veut dire « Seigneur, je suis à ta disposition ». Et Dieu lui a confié une mission, il lui a révélé d'abord la nature de cette mission, avant de lui dire « Lève-toi et va ». Mais quand Ananias a entendu parler de cette mission, quand il a su qu'il était envoyé pour aller visiter Saul de Tarse, qui était au dernier moment, le plus grand persécuteur de l'Église chrétienne, quand Ananias a su que c'était cette mission qu'il avait d'aller le voir et de prier pour lui, Ananias a eu peur, parce que la mission que Dieu lui confiait était une mission qui lui semblait impossible. C'était une mission humainement impossible. Aller voir le persécuteur de l'Église, prier pour lui, c'était risqué, puisque Saul de Tarse était venu à Damas pour arrêter les chrétiens. Et Ananias avait l'impression qu'il allait se jeter, permettez-moi l'expression, dans la gueule du loup, comme on dit en français. Mais Dieu a insisté et Ananias a relevé le défi. Quand Dieu parle, c'est toujours pour nous un défi. Parce que nous ne savons d'abord jamais ce qu'il va nous dire, et ce qu'il va nous dire sort toujours de l'ordinaire. Toujours de l'ordinaire. Quand il a dit à ses futurs apôtres, « Viens, et suis-moi, ou tout simplement suivez-moi, suis-moi. » Les apôtres, les futurs apôtres, ne savaient absolument pas ce qui les attendait. Et leur nouvelle vie au contact de Jésus a été une suite de bouleversements plus grands les uns que les autres. Mais ils ont cru que Jésus serait avec eux tout le temps. Alors ils l'ont suivi. Salomon est maintenant sur la montagne où il a offert des sacrifices à Dieu. Je passe sur le fait que cette montagne était un haut lieu, c'est-à-dire un lieu sacré dans les religions païennes de l'époque. Et Dieu passe outre le fait que Salomon offre encore des sacrifices en cet endroit. Et il lui pose une question, plutôt il lui fait une proposition. « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Sous-entendu, « et je te l'accorderai. » Demande-moi ce que tu veux. Pas ce qui te passe par la tête, mais réfléchis un peu et demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Il s'agit d'une chose. Dieu ne dit pas « tu pourras toute ta vie me demander ce que tu veux, je te le donnerai toujours. » Non, on est au début du règne. Comme aujourd'hui, nous sommes au début d'une année. Vous savez qu'au début d'une nouvelle année, on prend des résolutions. Enfin, c'est une coutume. Je le faisais quand j'étais plus jeune. Et puis un jour, je me suis rendu compte que mes résolutions, je les prenais en début d'année, mais au fur et à mesure que l'année passait, je les oubliais. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà au début d'une année. Bon, cette année, je vais faire ça, ça et ça. Cette année, je vais réformer ma façon de fonctionner, je vais prendre de nouvelles résolutions. J'ai vu que l'année dernière, ça n'a pas bien marché, donc cette année, il faut que ça marche. Attendez le mois de février, par exemple, ou le mois d'avril, et faites le point à ce moment-là. Vous verrez qu'il ne reste plus que 8 mois au mois d'avril, et il y a encore le temps de se rappeler les bonnes résolutions. Alors, partant de ce principe, je me suis dit, maintenant, je ne prendrai plus de résolutions, mais j'essaierai de les tenir. Enfin, j'essaierai plutôt de faire de bonnes choses, j'essaierai de faire des réformes si c'est nécessaire dans ma vie, mais sans en parler au début de l'année. Comme cela, si je ne les tiens pas, personne ne me fera de reproches, et je ne me ferai pas moi-même de reproches, Mais il vaut mieux essayer de changer les choses une après l'autre. Comme cela, ça porte plus de résultats que si on prend de grandes décisions que l'on a du mal à tenir. Vous savez, les résolutions qu'on prend en début d'année, c'est un petit peu comme les grandes promesses que font les futurs, les candidats à une élection pour se faire élire. Et une fois qu'ils sont élus, « Ah, j'avais dit ça ? Ah, je ne me souviens pas, vous avez du mal comprendre. » Un homme politique français célèbre a dit un jour, « Les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. » Pas ceux qui les font, ceux qui les entendent. Alors Dieu vient voir Salomon. Dieu vient voir Salomon et il lui pose cette question. C'est une question qui nous fait penser un peu à ce que Jésus a dit à ses apôtres dans Jean chapitre 15, verset 7. Il a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est un petit peu la même chose. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demandez tout ce que vous voudrez. Dieu a dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux. » C'est la même idée. Sauf que dans le cas des apôtres, ou de chacun d'entre nous, puisque ces paroles s'adressent aussi à nous, il y a une condition préalable, c'est de demeurer en Jésus. C'est-à-dire, ce qui veut dire faire sa volonté, respecter ses enseignements et mettre ses enseignements en pratique. C'est cela que ça veut dire, demeurer en Jésus et que mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous, si vous lisez ma parole, si vous vous efforcez jour après jour, fidèlement, de la mettre en pratique, alors vous pourrez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Sous-entendu, si vous lisez ma parole tous les jours et que vous la mettez en pratique, si elle représente votre référence suprême, il ne vous viendra jamais à l'idée de demander n'importe quoi. Parce que tout ce que vous demanderez, vous ferez en sorte que ça corresponde à ce que Dieu aime et qui est révélé dans sa parole. D'autres hommes ont vécu un peu cela, comme Josué par exemple. Nous en parlions tout à l'heure. Lorsque Moïse est mort, Dieu l'a invité à se lever parce que c'était son tour. Josué avait été désigné déjà du vivant de Moïse pour prendre la succession de Moïse lorsqu'il mourrait. Et Dieu dit à Josué, « Le livre de la loi de Moïse, ce livre de la loi, ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est une même promesse sous une autre forme, avec des mots différents. Tu méditeras ma parole, tu l'observeras, tu mettras en pratique tout ce qui est écrit dans ma parole, et moi je te donnerai du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ça revient à peu près au même. Nous notons ici deux choses. D'abord, le sérieux des paroles de Dieu. Tout ce que Dieu dit, il est prêt, et bien sûr, il est capable de le faire. Dieu ne nous trompe jamais. Quand Dieu parle, il parle toujours sérieusement et on peut lui faire totalement confiance. Et deuxième chose, c'est le sérieux de la vie que nous menons nous aussi. Nous devons prendre au sérieux les paroles de Dieu, mais nous devons prendre au sérieux aussi la vie que nous menons. Parce que cette vie, elle est vécue comme un don de Dieu, surtout lorsque nous avons rencontré Dieu et que nous marchons dans ses voies. Elle est un don de Dieu et Dieu a investi en nous. Il nous a laissés sur terre pour que nous soyons ses représentants, ses disciples. Paul emploie l'expression ses ambassadeurs. D'une certaine manière, nous représentons Dieu. Nous ne sommes pas comme dans la théologie catholique pour le pape, le représentant de Jésus sur terre dans ce même titre. Nous ne sommes pas les successeurs de Jésus, même si j'ai dit cela tout à l'heure, mais entre guillemets, entre parenthèses, nous devons accomplir sur la terre la mission que Jésus nous a confiée. Elle n'est pas la même que la sienne, puisque lui est venu sur terre, pas simplement pour accomplir des miracles. Le but de la venue de Jésus, c'était de mourir sur la croix pour le pardon des péchés des hommes. Nous n'avons pas ce même but. nos péchés ont été pardonnés, mais nous devons simplement proclamer l'évangile qui apporte le salut par la mort sur la croix de Jésus et sa résurrection d'entre les morts. Donc la vie chrétienne est sérieuse. Et la vie du roi Salomon, à sa montée sur le trône, était une affaire sérieuse. Le peuple d'Israël, à l'époque, était le peuple que Dieu avait choisi pour qu'il proclame sa gloire. Le roi de ce peuple avait donc un rôle extrêmement important. Nous voyons dans l'histoire d'Israël que souvent, quand le roi se conduisait de mauvaise manière, le peuple se conduisait de la même manière. Et quand le roi était un roi qui voulait mettre en pratique la parole de Dieu, cela avait une influence sur le peuple. Donc la décision que va prendre le roi Salomon est importante. Si Dieu vous posait la même question ou vous faisait la même proposition, que répondriez-vous? Si Dieu venait sous une forme ou une autre vous voir, aujourd'hui, demain, après-demain, un matin, un soir, une nuit, et vous disait « Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. » Que demanderiez-vous? Alors réfléchissez, mais je ne demande pas de réponse, cela ne me regarde pas, c'est « on ne peut plus personnel », mais c'est une question intéressante à se poser. Parce que c'est la question qui a été posée à ce jeune roi. Et il a réfléchi et il a apporté une réponse. Nous ne savons pas combien de temps il a réfléchi ou s'il avait déjà pensé à cela. Si jamais je pouvais avoir quelque chose, maintenant que je monte sur le trône, ce serait cela que je voudrais. Peut-être avait-il déjà réfléchi ou peut-être a-t-il pris le temps de la réflexion quand Dieu lui a parlé. Ce que nous savons, c'est que d'abord, dans un premier temps, ce que Salomon n'a pas demandé. Dieu le fait remarquer à partir du verset 11. Salomon n'a pas demandé une longue vie. Deuxième chose qu'il n'a pas demandé, que Dieu a noté, il n'a pas demandé à devenir riche. Troisième chose, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Peut-être que Dieu a dit cela dans sa réponse parce que il s'attendait à ce qu'un homme normal, je dis bien un homme normal, demande l'une de ces trois choses ou les trois. Quel est l'être humain qui ne rêverait pas de vivre longtemps? Si je vous disais cet après-midi, aimeriez-vous vivre jusqu'à 60 ans ou jusqu'à 100 ans? Oh, disons 80, parce que sinon vous allez me dire, mais dans quel état je serai à 100 ans? Donc, vous allez me dire peut-être, j'aimerais vivre longtemps, en très bonne santé. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, moi j'aimerais bien avoir une parfaite santé jusqu'au jour de ma mort. Puis après, j'ai dit, mais si je suis en très bonne santé, ce ne serait pas la peine de mourir. Il faudrait attendre quand même. Il y a toutes sortes de demandes que l'on peut faire. Tout être humain rêve de vivre longtemps, sous-entendu en bonne santé. Tout être humain a rêvé au moins une fois dans sa vie de devenir riche. Au moins une fois. J'ai bien dit à rêver. Puis il y a ceux qui font ce qu'ils peuvent pour le devenir, de manière correcte ou de manière moins correcte. Qui n'a pas rêvé que tout le monde soit gentil avec lui, que personne ne prenne le risque de devenir plus ou moins une forme d'ennemi, et qui n'a pas rêvé de ne pas avoir d'ennemi, de n'avoir personne dans son entourage immédiat ou dans l'entourage que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours qui soit contre lui ou qui lui fasse des misères, comme on dit. Ces trois demandes que Salomon n'a pas faites, Dieu semble dire ici qu'elles auraient été légitimes. Il ne dit pas qu'il les aurait accordées. Mais Salomon, après avoir réfléchi, a dit, « Seigneur, ce que je voudrais, verset 9, accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Le texte hébreu, qui a été traduit comme cela en français, nous dit-on, signifie exactement, dit exactement, accorde donc à ton serviteur un cœur qui écoute, un cœur qui entende. Bien sûr, qui écoute Dieu, mais aussi qui écoute les autres. Salomon voulait et a demandé à Dieu la capacité d'avoir toujours un cœur qui l'écoute pour être inspiré par lui, pour avoir toute la sagesse nécessaire, mais aussi un cœur qui écoute le peuple afin de comprendre ses revendications ou ses demandes ou tout simplement ses besoins. Salomon a demandé un petit peu ce que disait, vous savez, Salomon était le père de David et David en son temps avait exprimé aussi une demande, c'est pas Dieu qui lui avait demandé ce qu'il voulait, mais il avait dit un jour dans un psaume, le psaume 27 verset 4, David avait écrit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » C'était cela le rêve de David, habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Alors, David a été récompensé plus tard, puisque quand il est mort, il est parti auprès de Dieu. Salomon a été récompensé, puisque Dieu lui a donné une grande sagesse et une grande écoute. Cela se voit dès la deuxième partie du chapitre, avec ce fameux texte qui est intitulé dans ma Bible « Le jugement de Salomon ». Vous savez, l'histoire de ces deux femmes qui avaient dormi et qui, dans la même pièce, peut-être même dans le même lit, et qui l'enfant de l'une était mort pendant la nuit étouffé, et l'autre avait été vivant, et chacune disait que l'enfant vivant était le sien, et donc que l'enfant mort était celui de l'autre. Sauf que les deux disaient cela. La femme numéro un disait, le bébé qui est mort, c'est celui de la femme numéro deux. Et la femme numéro deux disait, le bébé qui est mort, c'est celui de la femme numéro un. Et vous savez ce que Salomon a dit, sous une forte inspiration, je crois, de sagesse. Il a dit, eh bien, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, comme on ne sait pas qui dit la vérité, on va couper l'enfant en deux et chacune en aura la moitié. Bien sûr, c'était une chose inconcevable. Et c'est alors qu'une des deux femmes a dit, non, surtout pas, il ne faut pas couper ce bébé en deux, vaut mieux le donner à l'autre. Et Salomon a dit, alors c'est que c'est cette femme qui est la maman, parce qu'elle ne veut pas que son enfant soit coupé en deux. Celle dont le bébé était mort, et elle le savait bien que c'était son bébé, ça lui était égal qu'on tue le bébé de l'autre, puisque le sien déjà était mort. Et par cette remarque forte de sagesse, Salomon a démontré que Dieu l'avait exaucé. Et dans bien d'autres domaines, dans les premiers chapitres en tout cas du premier livre des rois, Salomon est montré comme un roi qui était devenu très très sage. Alors je termine par cette simple question que j'ai déjà exprimée tout à l'heure. Imaginons un instant que Dieu nous demande la même chose qu'à Salomon, que Dieu nous fasse la même proposition. Imaginez que Dieu vienne vous voir cette nuit et vous dise, écoute, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Demande-moi ce que tu veux, une chose, pas 36 choses, hein, une chose. Quelle est la chose que tu aimerais que je te donne en priorité? Et puis, je suis convaincu que si c'est une bonne chose, Dieu le fera. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut notre bien. Vous savez, il y a un homme qui un jour désirait quelque chose, c'était le prophète Élisée, il était jeune, il n'était peut-être pas encore prophète. Et puis Élie, son mentor, Élie lui avait dit, si tu restes avec moi, jusqu'à mon départ de cette terre, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Mais Élie a fait en sorte que Élisée soit découragé de le suivre, pour le tester. Et à plusieurs reprises, Élie a poussé un petit peu Élisée à le quitter avant qu'il ne parte de cette terre. Et à chaque fois, Élisée a résisté et est resté avec lui. Des amis l'ont découragé. mais il est resté avec Élisée, avec Élie jusqu'au bout. Et lorsque Élie a compris que c'était le moment pour lui de partir de cette terre, il a dit à Élisée, alors, que veux-tu? Et Élisée a répondu, je voudrais avoir le double de la puissance de l'Esprit qui était sur toi. Et la Bible dit que Élisée l'a reçu. Certains ont compté les miracles qu'avait fait Élisée et ils ont dit, c'est juste le double des miracles, du nombre de miracles qu'a fait Élie. Alors je ne sais pas si on peut simplement s'appuyer sur ce fait pour dire qu'il a été exaucé. Je pense que s'il a été exaucé, c'est parce qu'il a été fidèle à Dieu. Et sa revendication était légitime. Dieu aime donner ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce qui nous est utile par-dessus tout pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Alors que Dieu garde sur notre esprit cette histoire, cet épisode, nous ne sommes pas de jeunes rois, nous ne le serons sans doute jamais, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et au début de cette année nouvelle, nous pouvons nous approcher de Dieu et compter sur lui pour qu'il nous accorde tout ce qui est bon pour que notre vie l'honore. Amen.